11h16, et on veut parler aussi aux acheteurs qui avaient des idées de grandeur en vendant leur maison, qui se disaient « je vais profiter de la surenchère, je vais faire un coup d'argent ». Et finalement, il y a des exceptions au marché. Là. C'est pas toutes les maisons qui s'en vont en surenchère. Il y en a où ça fonctionne pas. Là. Il y en a où ça finit avec un peu moins dans la cagnotte.
Ben, c'est qu'on en parle tellement du phénomène. Donc, il y a quelques propriétés. Puis, j'ai parlé à des courtiers récemment qui disaient, bon, ben telle propriété, je comprends pas. Il y a pas eu. Tu sais, c'est rendu presque inhabituel de pas avoir 10 promesses d'achat. Là. Donc, certaines propriétés en reçoivent un petit peu moins. Il y a des vendeurs qui se disent, ben moi, je vais profiter du marché, je vais demander un prix plus élevé, mais oui. Finalement, c'est peut-être un peu trop élevé aussi pour attirer un nombre d'acheteurs. Parce que si on pense, Jeffrey, je vais donner un exemple concret. La maison, exemple, on l'aurait affichée à 400 000 normalement. Le vendeur veut profiter de la surenchère, l'afficher à 475 000. Si on a cet affichage-là, il y a des gens qui vont se dire en ce moment, s'il faut que je paye 60, 75 000 de plus pour avoir cette maison-là, je dépasse mon budget, donc je n'irai pas la visiter.
Donc, c'est d'afficher un prix raisonnable, puis là, vous allez profiter de la surenchère.
Exactement. Sans faire de vente de feu, là. On ne dit pas de sous-évaluer, parce qu'il y a certaines propriétés qui sont clairement sous-évaluées dans le marché, là. Ça se voit, on le sait, c'est un phénomène plus rare, mais ça existe. Mais de surévaluer aussi pour bénéficier du marché, ça peut avoir l'effet contraire. Et votre maison peut rester quelques semaines sur le marché, ou du moins se vendre moins cher que si vous auriez affiché à un prix plus raisonnable et un prix à sa juste valeur, finalement.
Parfait. Patrice, bonjour.
Bonjour à vous. Je suis content de vous parler ce midi. Les enfants, nous, mon fils avec sa copine, ont fait une offre d'achat sur une maison. Ils ont passé à travers la surenchère. Tout est réglé. Ce matin, il y a une heure, on apprend que c'est une maison où il y a eu un suicide.
OK.
Qu'est-ce qu'on fait? C'était coché non dans la déclaration du vendeur.
Et pourquoi vous ne l'avez pas su? De quelle façon est-ce que le propriétaire était au courant de ça ou il vient de l'apprendre?
Bien, il semblerait que le propriétaire était au courant et l'agent d'immeuble devait le savoir aussi puisqu'il a déjà vendu cette maison-là.
OK, bien ça, c'est la déclaration obligatoire, là. Ça, c'est clair. Est-ce que cet élément-là, oui, bien ça, et c'est prévu pour signer quand l'acte de vente, Patrice?
Bien, bientôt, là, tout est accepté. On apprend ça ce matin, là,
Hey.
Je ne sais pas quoi lui dire.
Comment vos enfants ont réagi à ça? Est-ce que, parce qu'il y a des gens que ça dérange pas, hein, mais il y a d'autres gens qui vont avoir une certaine réserve, là.
Ben, moi, personnellement, j'en aurais une. De là, je ne sais pas quoi lui dire. Mais tu sais, ils ont payé l'inspection. Ils ont payé les frais pour un test d'eau. Parce que c'est un puits, c'est dans la Naudière. Ils ont passé à travers tout ça, puis là, on apprend ça. C'est comme un cheveu dans la soupe, là.
C'est pas censé, Patrice. Normalement, c'est dans la déclaration du vendeur, c'est censé être coché oui, alors que si vous savez qu'ils étaient déjà au courant, que le courtier a déjà vendu la maison, peut-être que vous pourriez avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé exactement. Est-ce que ça va faire avorter la vente, vous pensez? Parce qu'il pourrait se retirer pour cette raison-là, mais je sais qu'il y a bien des gens qui ont gagné un processus d'offre et qui veulent pas se retirer. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un dédommagement pour ça? La question se pose ce matin, là. Je vous dis pas que c'est...
OK.
Mais là, Patrice, vous avez bien compris ce que Mélanie a dit. Ils peuvent se retirer s'ils le souhaitent. C'est une raison assez importante
pour le faire.
Là.
Ce qu'il faut comprendre, oui, là, c'est que la raison pourquoi un suicide ou une mort violente est déclarée dans une maison, dans un immeuble, c'est qu'il y a des gens qui ont des croyances. Et on peut pas imposer ces événements-là à des gens qui ne sont pas au courant si, pour certaines personnes, d'avoir eu ce genre de phénomène dans une maison, c'est négatif pour la maison. Donc, il y a des gens qui croient à ça. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise. Aussi, il y a des gens qui vont poser beaucoup de questions sur ce qui s'est passé, sans élaborer ici ce matin, mais bon, il y a différents phénomènes qui peuvent se produire lorsque quelqu'un s'enlève la vie. Donc, il y a des gens qui veulent de l'information et c'est la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils auraient fait une promesse d'achat s'ils avaient su cette information-là au départ à dévoilement obligatoire? Donc, ça, c'est vraiment la clé. Alors, moi, ma question, c'est premièrement, poser plus de questions et cette information-là que vous venez d'apprendre après avoir engendré des coûts, l'inspection, le test d'eau, comme vous dites, des coûts, des démarches, et là, vous vous retrouvez coincé à la dernière minute. Il y a certainement lieu de demander un dédommagement d'endommagement ou de voir comment les acheteurs se situent là-dedans. Est-ce que c'est un prétexte pour reculer?
Ben, écoute, je ne sais pas. Ça fait une heure qu'on le sait.
Aïe, aïe, aïe.
Votre émission tombe à point. Mais je ne sais pas. Je suis allé lire des articles là, vite là, un peu sur Internet. Il y a des évaluateurs qui ont déjà fait des études sur ça. Ça baisse le prix des maisons oui. en moyenne de 12,5%.
Exactement. Donc oui, dans le marché actuel, il n'y a pas une grande différence par contre, mais c'est vrai qu'à la revente, c'est qu'eux, ils vont être obligés de le déclarer. Ça reste toute la vie, là. Toute la vie d'une propriété, lorsqu'il y a un suicide ou une mort violente, vous êtes tenu de le dévoiler, que ça fasse 20 ans, 30 ans. Le seul moment où on n'a pas de déclaration de cet événement-là, c'est si une banque, si c'est une reprise de finances ou si la propriété est reprise par la justice. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de déclaration du vendeur. Mais sinon, c'est la déclaration obligatoire. Alors, il va falloir reparler au courtier en question, trouver un terrain d'entente, selon moi, parce que c'est une information majeure qui aurait fait en sorte que peut-être c'est votre fille ou votre fils et votre...
c'est mon fils avec sa copine.
Sa copine, c'est ça. Ben, peut-être qu'eux, ils auraient dit, ben, moi, je suis plus réfractaire à faire une offre s'il y a eu cet événement-là dans la maison. Donc, je le sais, ça existe en ce moment. Avec le marché actuel, il y a des gens qui achètent quand même, ça ne les dérange pas, mais il fallait le savoir avant. Ça, c'est sans équivoque. Il faut être informé au moment où on fait la promesse d'achat parce qu'ils ont signé l'accusé réception de la déclaration du vendeur dans laquelle tout ça se retrouve. Alors, il y a aucune, tu sais, pour moi, là, c'est vraiment très clair, là. Il aurait fallu que ce soit déclaré dès le début.
Et Patrice, appelez donc, là, vos enfants, là, votre fils, là, puis dites-leur qu'ils nous appellent.
Oui, curieuse.
On veut
de
leur
voir.
Parler, là. Ce serait intéressant d'ici la fin de l'émission.
Parce que moi, personnellement, il oui. y a certaines personnes que ça va freiner, c'est sûr. Et il y a des gens qui pensent, exemple, que c'est survenu sur le terrain. On n'a pas besoin de le dire. Non, non. Que ce soit sur le terrain, dans la maison, dans un cabanon, peu importe. OK, je donne pas de détail, mais peu importe où sur la propriété, s'il y a un suicide ou une mort violente, tant que c'est sur le numéro de lot et que c'est cette propriété-là qui est visée, il faut le déclarer.
Parfait. Merci, Patrice. Et appelez votre fils, oui. puis on attend son appel.
Merci, merci. Bye-bye.
Merci. Merci. On est là jusqu'à midi. On va parler avec Luc. Bonjour, Luc.
Bonjour.
On vous écoute, mon cher Luc.
Merci de prendre mon appel. La question que j'ai aujourd'hui pour votre agent spécialiste, c'est de savoir, quand on souhaite aller acheter une propriété dans une région qui est différente de la nôtre,
oui.
est-ce qu'on a avantage à essayer de se trouver un agent pour représenter, pour nous représenter, pour pouvoir faire les démarches? Parce que quand on arrive dans une nouvelle région, on connaît pas le marché, on connaît pas le,
oui.
on connaît pas la surenchère possible, et on a tout le temps l'impression que l'agent qui vend va prendre le bénéfice de la personne qui veut vendre sa propriété.
Ben c'est clair, Luc, qu'en théorie, là, le courtier immobilier qui est inscripteur, donc qui vend la propriété, il y a un contrat de courtage avec le vendeur. Donc, il doit aussi donner toutes les informations à l'acheteur, mais ça reste que son contrat est avec le vendeur. Donc, moi, je conseille à tous les gens, surtout pour un changement de région, il y a peut-être des subtilités aussi que vous ne connaissez pas. Pour tous les gens qui achètent en région, des fois, bon, est-ce que c'est un secteur problématique pour un matériau X qui a été détecté dans le sol ou est-ce qu'il y a des problématiques particulières à une région? Donc, ça, c'est important aussi, je pense, d'être accompagné par un courtier qui connaît le marché. Et c'est clair que si vous voulez changer de région, moi, n'importe quand, je vais vous dire oui, trouvez-vous quelqu'un pour vous accompagner. Pas parce que le courtier inscripteur n'est pas digne de confiance, mais parce que vous allez avoir votre propre service, vous allez avoir votre propre courtier qui travaille pour vous. Alors que le courtier inscripteur, oui, il va tout vous donner les informations, mais son contrat reste à la base avec le vendeur. Puis, il y a des subtilités dans chaque région, donc c'est important d'être bien informé.
Il aura toujours un parti pris pour le vendeur plutôt que pour l'acheteur.
Son travail doit être équitable. Par contre, comme je vous le dis, oui, effectivement, il représente le vendeur. Alors, il a un contrat avec le vendeur. Par contre, moi, les courtiers que je connais, souvent, vont tout faire le plus honnêtement possible pour tout donner l'information, parce que vous savez que beaucoup de gens nous surveillent, nous, les courtiers. Et si on travaille mal, ben, on s'expose à des choses aussi. Donc, moi, la plupart des courtiers vont bien servir les acheteurs aussi, mais c'est clair que moi, je préfère quand l'acheteur a son propre courtier, surtout dans un changement de région.
J'aurais une dernière question pour vous, si vous me le permettez.
Oui.
Est-ce que une des causes de la surenchère proviennent des agents qui inscrivent le prix trop bas pour susciter beaucoup plus de promesses d'achat sur une propriété.
Bien, c'est bien que vous posiez la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui la posent et on va le rappeler ce matin, en fait. J'ai déjà expliqué, Luc, qu'en ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de comparables. OK, ce qu'on voit, le marché est complètement fou, complètement déréglé et historiquement, c'est du jamais vu. Il y a des courtiers de 30 ans d'expérience qui n'ont jamais vu ça. Alors, c'est sûr que peut-être que oui, il y a certaines maisons qui sont sous-évaluées. Par contre, quand on regarde les comparables vendus, on peut difficilement se baser sur le marché actuel pour fixer le prix d'une maison. Je vous explique, c'est que tout est une question d'offre et de demande. Alors, on affiche le prix que la maison est censée valoir sur le marché. Et là, s'il y a 20 acheteurs, ben c'est sûr que ça grimpe. Mais ça veut pas dire que, honnêtement, Luc, là, c'est pas parce qu'une maison se vend 550 000 en ce moment qu'elle vaudrait 550 000. Et puis, si on l'avait affichée à 550 000, peut-être qu'elle serait même pas vendue encore. Donc, ça, c'est une nuance que je tiens à partager, puis c'est une bonne question. Faut pas sous-inscrire les maisons. Les prix commencent à monter tranquillement parce qu'on voit bien, là, que les prix réels sont plus collés à la réalité.
Ouais, puis de toute façon, c'est un phénomène qui est partout dans le monde. Là,
exactement.
Ou à peu près,
là. Oui, on le voit. Bon, dans l'Ouest canadien, on l'a vu avant.
États-Unis,
mais aux États-Unis,
c'est assez clair. Là.
C'est comme ça aussi. Alors, les courtiers, comme je le dis souvent, ont le dos large, mais les courtiers aussi vivent une situation qu'on n'a jamais vécue. Alors, l'ajustement de prix, même les évaluateurs des banques ont de la misère à évaluer les propriétés en ce moment parce qu'il n'y a pas beaucoup de comparables. Donc, je vous dirais que c'est un peu tout ça là qui fait en sorte que la surenchère existe et c'est aussi simple que l'offre et la demande. T'sais, s'il y avait plus de maisons sur le marché, les gens, tu sais, il y aurait plus de disponibilité pour acheter des propriétés et les gens s'emballeraient un petit peu moins, Luc. J'espère que ça répond à votre question.
Absolument. Je vous remercie beaucoup. Continuez votre
beau
travail.
Merci, Luc. Excellente journée.
Très bonne question ici sur la question des suicides. J'ai peut-être manqué l'info, dit-il. Nous, on a acheté une maison dans laquelle il y a eu un suicide. Nous avons démoli complètement la maison et reconstruit une nouvelle. Et là, tu vois venir la question,
ben oui.
Puis je pense que tu as répondu un peu
oui.
Tantôt. Est-ce que la déclaration de suicide va suivre la nouvelle maison?
Oui. Oui, parce que c'est survenu sur le terrain, mais... OK.
J'espère qu'ils n'ont pas fait ça pour juste pour cette raison-là,
que
parce
non.
Que là...
Non, ça coûte cher. Non, mais écoutez, c'est sûr que la nature de l'événement, la date de l'événement va changer le cours des choses. Donc, même s'il y a eu un suicide sur la propriété, que vous avez reconstruit tout ça, vous devez le déclarer. Mais il y a une façon de le verbaliser aussi, parce que tu sais, vous l'avez démoli, la maison. Donc, on peut le dire dans la déclaration du vendeur, on coche oui. Toutefois, ancienne maison a été démolie et reconstruite. Donc, on peut préciser ces choses-là à la fin de la déclaration du vendeur. On réfère au numéro de la clause et on explique ce qui s'est passé. Donc, si, par exemple, c'est survenu dans la cour, donc la maison n'a pas été touchée par ce phénomène-là, ben on l'indique aussi parce que c'est un facteur qui va peut-être faire en sorte que les gens vont être moins touchés par ça. C'est toujours très touchant et troublant. Par contre, il y a des facteurs qui peuvent, ou si ça fait 25 ans et qu'il n'y a rien arrivé d'autre dans la propriété, ben c'est toujours bon de préciser le moment aussi dans la déclaration du vendeur. Si ça fait 25 ans ou si ça fait 2 ans, la perception parfois des acheteurs va être différente. Mais oui, si, même si vous avez rebâti la maison, que vous avez démoli un cabanon ou démoli un garage, peu importe, et c'est là qu'est survenu l'événement, malheureusement, ça va suivre la propriété.
Parfait. On va revenir dans un instant, 11h30. Est-ce que vos plans ont avorté dans le marché actuel? 514-790-9850, 1-866-790-9850. À tout de suite.